Traditionnellement, dans l'Église, c'est donc au jour de l'Épiphanie qui est annoncé les grandes fêtes liturgiques mobiles de l'année, hein, celles qui se déplacent, qui changent de date d'une année sur l'autre. Et donc, c'est pour cela que notre diacre nous a fait cette annonce. J'espère que vous avez noté les dates, pas vous tromper. Première date, c'est l'entrée en carême, le 14 février. Voilà. Aujourd'hui, donc, nous célébrons une grande solennité, la solennité de l'Épiphanie, hein, qui veut dire manifestation en grec, manifestation du Christ au monde entier. Je l'ai dit un petit peu au début de la messe. C'est une grande fête, c'est la première fête, en fait, autour de Noël. Vous savez que dans la liturgie orientale, chez les orthodoxes, mais aussi les catholiques de rites orientaux, eh bien, c'est aujourd'hui qu'ils fêtent vraiment Noël. Ils fêtent déjà l'incarnation, hein, le 25 décembre, mais ils fêtent solennellement aujourd'hui Noël, puisque c'est grâce à cette volonté de Dieu, non seulement de s'incarner, mais de se manifester au monde et de mettre en œuvre un certain nombre, d'enseigner ce que nous connaissons. Hein, eh bien, c'est grâce à cette volonté du Seigneur de se manifester que nous le connaissons, nous les païens. Hein, les rois mages, c'est donc l'image des païens qui viennent eux aussi s'incliner devant l'enfant, hein, qui est né juif et qui est d'abord le Messie promis au peuple juif en premier lieu. Mais sa messianité, eh bien, voilà que elle est annoncée au monde entier parce que c'est le monde entier qui aspire à être sauvé, qui aspire à connaître Dieu pour pouvoir l'aimer vraiment et le servir. Et donc Dieu l'a voulu ainsi, se manifester à tous et sauver tous les hommes de bonne volonté, tous ceux qui se tourneront vers lui. Progressivement, en Occident, cette fête a perdu un peu de son importance, à tel point qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour du temps de Noël pour nous. Hein. Demain, lundi, c'est la fête du baptême du Seigneur, et puis ensuite, à partir de mardi, on est dans le temps ordinaire. Hein. Donc, on est à la fin. Donc, cette fête donc, a perdu de son importance en raison surtout des querelles christologiques autour de la nature de Jésus, qui est Jésus, hein, et la nécessité d'affirmer avec puissance et force le fait que Jésus est à la fois pleinement homme, mais il est aussi pleinement Dieu. Hein, c'est pour cela qu'à Noël, on s'agenouille dans le credo au moment où nous disons que le Verbe s'est fait chair, que Dieu a pris chair de la Vierge Marie. Hein, on s'agenouille pour montrer cette foi à laquelle nous adhérons. Hein. Cet agenouillement nous aide à y croire, mais cet agenouillement est aussi l'expression de notre foi. Nous aide à réaliser aussi. Et puis donc au Moyen-Âge, comme en raison de ces querelles, eh bien au Moyen-Âge, en Occident en particulier, la fête de Noël prendra une très très grosse importance. Et on va voir l'invention de la crèche de Noël par saint François. On aura aussi le fait que, par exemple, on célébrera énormément de baptêmes autour de Noël, et je me souviens de Clovis, qui va être baptisé à Noël avec toute son armée, hein, et qui sera le baptême de la France. Hein, voilà, on voit l'importance de Noël pour nous en Occident, hein, et puis mais l'importance de Noël, c'est une réalité objective, évidemment. Mais... Voilà, Jésus est donc né, mais la question de savoir qui il est et que veut-il faire. Et nous avons, dans cette fête de l'Épiphanie, la volonté de Dieu de se manifester au monde, je l'ai déjà dit, mais en fait, nous fêtons aujourd'hui, et c'est aussi la grande tradition qui nous le transmet, trois événements majeurs. Le premier, c'est la venue des mages que nous fêtons, l'évangile que nous entendons, hein, cette volonté de se manifester aux païens que nous sommes, en fait, et même si nous sommes chrétiens, on peut toujours dire qu'on a un petit peu de paganisme en nous, qui a besoin de se convertir. Les païens qui n'attendaient pas de Messie, à la différence du peuple juif, hein, mais qui finalement sont gratifiés d'une bonne nouvelle et qui sont invités à intégrer désormais le peuple Dieu par la grâce du baptême en devenant croyants et en demandant le baptême. C'est ce qui se passera dans l'histoire et c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. C'est le premier élément de la fête. Le deuxième élément de cette fête, l'évangile n'a pas entendu, c'est l'évangile de Cana, les noces de Cana, premier miracle de Jésus, avec une intervention touchante de la Vierge Marie, et puis dans un contexte très particulier de gratuité. Hein, l'évangile de Cana est tiré de l'évangile de Jean. On le lit une fois tous les 3 ans, en l'année C, l'année prochaine on le lira, juste après le baptême du Seigneur, on aura le dimanche de Cana, hein, et qui va nous rappeler cette dimension de l'épiphanie. Malheureusement, cet évangile, on le lit moins souvent, c'est un évangile important pour nous, pour bien comprendre ce que Dieu fait. Premier miracle, dans un contexte d'un mariage, dans une gratuité étonnante, puisqu'il ne va pas multiplier de l'eau, parce que l'eau, ce serait vital, basique, et pour des convives qui manqueraient d'eau, mais il va multiplier du vin dont on peut se passer. Et ce vin va être excellent. En plus, on apprend par ce miracle que Dieu a du goût, au cas où on en douterait. C'est pour ça qu'on fasse attention à ce qu'on fait de notre côté si on veut le servir. Voilà. Il montre comment Dieu s'occupe des hommes. Cet évangile de Cana montre comment Dieu s'occupe des hommes en multipliant non de l'eau, mais du vin, en créant du vin. Il ne nous donne pas le minimum nécessaire, c'est ce que nous apprend l'évangile de Cana. Dieu ne se contente pas du minimum pour nous, mais il veut de la surabondance. Dieu s'occupe des hommes avec beaucoup de proximité, de bonté et de tendresse. On y voit aussi la place particulière de la Vierge Marie, qui dit aux serviteurs, et nous pouvons nous reconnaître dans les serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira ». C'est parce que les serviteurs feront tout ce que Jésus dira que le miracle se produira. C'est ainsi que les miracles se produisent. C'est quand on fait tout ce qu'il nous dit. Condition pour que Dieu puisse changer l'eau en vin. Faites tout ce qu'il vous dira. Enfin, ces noces renvoient aux noces que le Seigneur veut réaliser entre nous et lui. Une union, une véritable union, dont le mariage chrétien est le sacrement, est donc le signe efficace. C'est pour ça que dans les couples chrétiens, c'est très important de tout faire pour beaucoup s'aimer et bien s'aimer. Mais c'est tout un travail, parce qu'on est des pécheurs. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Et il nous renvoie aussi à l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est le repas des noces, de l'alliance entre Dieu et nous, entre les hommes et Dieu. L'Eucharistie est une nourriture de fête. C'est une présence étonnante de Jésus parmi nous, où Dieu non seulement fait un excellent repas de fête pour nous, mais se donne lui-même à manger. C'est notre épiphanie hebdomadaire que nous vivons, ce repas eucharistique. Et enfin, la troisième fête, celle que nous fêterons demain, qui passera un peu inaperçue cette année, puisque ce sera en semaine, c'est la fête du baptême de Jésus, qui est aussi une épiphanie. Ces trois événements sont les trois épiphanies. Baptême de Jésus qui inaugure la vie publique de Jésus, où il va commencer à prêcher. Et là, se révèle Dieu tel qu'il est, Trinité. Le Père qui bénit son Fils et la colombe qui descend sur l'enfant Jésus. La Trinité est manifestée. Ainsi. Voilà, on insiste aujourd'hui beaucoup sur les mages, donc sur l'ouverture aux païens, mais ces deux autres dimensions sont bien présentes, et je vous invite, si vous le pouvez, à prier sur ces textes durant la semaine qui vient, pour nous imprégner de la grâce de cette fête de l'Épiphanie. Nous prions particulièrement aujourd'hui pour nos frères orthodoxes, puisque cette année, le 7, donc les frères orthodoxes fêtent l'épiphanie le 7 janvier, et aujourd'hui toute la chrétienté en fait fête l'épiphanie, parce que ça correspond, nous sommes le 7, il me semble, hein, je ne me trompe pas, et donc tout le monde fête l'épiphanie en même temps. Nous prions pour nos frères orthodoxes, et pour l'unité de l'Église. Voilà, aujourd'hui les bergers et les mages reconnaissent leur Seigneur et leur Dieu en Jésus. Cette procession que font les bergers, puis les mages, cette procession, nous devons la poursuivre, la continuer, venir nous incliner devant Dieu, le reconnaître dans l'enfant, et ensuite le reconnaître dans sa présence, dans la croix du Seigneur, dans l'Eucharistie que le Seigneur nous donne pour pouvoir continuer à l'adorer. Et donc, cette procession se poursuit, il est important d'en prendre conscience, les processions que nous vivons dans la célébration eucharistique sont cette procession-là qui se poursuit. Nous allons vers le Seigneur. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion de le dire, c'est pour ça que je souhaite, je tiens à ce que la communion soit donnée au pied de l'autel, ou sous les côtés, mais en tout cas pour qu'il y ait une procession qui se mette en place vers l'autel, qui est la présence du Seigneur, vers le Seigneur, qui est là. Nous vivons cette démarche, et nous avons besoin de le vivre avec nos pieds et notre corps pour pouvoir mieux le réaliser. Dans cette démarche, nous voyons les mages qui apportent l'or, l'encens et la myrrhe. Vous le savez déjà, je répète brièvement au cas où certains auraient oublié. L'or, c'est parce que... Alors déjà, remarquons que Marie, Joseph et l'enfant Jésus n'avaient pas grand-chose. Ils étaient un peu démunis. Donc ils auraient eu besoin d'un peu de linge, etc. Enfin, je ne sais pas, tout ce qu'on a besoin pour un enfant, un bébé. Et non, les mages ne vont pas apporter le linge, enfin, ne vont pas répondre aux besoins d'une famille pauvre. Mais ils vont apporter des dons étonnants, l'or. Alors ça, tout le monde dira, ouais, l'or, c'est pas mal, hein, parce qu'on peut acheter des trucs avec. Mais l'or, c'est parce qu'ils reconnaissent dans cet enfant pauvre, démuni, simple, ils reconnaissent un roi. On offre de l'or au roi. Ensuite, de l'encens. Alors ça, l'encens, c'est très surprenant. Ça veut dire qu'ils vont reconnaître dans cet enfant Dieu. Puisqu'on on offre de l'encens traditionnellement dans l'Antiquité, dans le judaïsme, partout, à Dieu seulement. Et c'est pour cela qu'on continue à le faire encore aujourd'hui. Donc ils offrent de l'encens pour ils reconnaissent Dieu en l'enfant Jésus. Et la myrrhe, alors là aussi c'est étonnant, parce que la myrrhe, ça montre qu'en fait cet enfant va mourir. C'est le parfum qui servait à embaumer les corps morts. Et donc ils vont offrir la myrrhe en montrant qu'ils reconnaissaient dans cet enfant un être mortel. Donc Jésus est vraiment totalement homme, hein, il est totalement Dieu, mais totalement homme, un être mortel, mais ils annonçaient aussi sa mort et sa mort rédemptrice, l'importance de sa mort dans la vie d'humanité. C'est le contraire de tout ce qu'on peut penser, parce qu'on se dit, si cet homme il est à la fois homme et Dieu, il ne devrait même pas mourir et puis nous donner tout ce qu'il faut, et puis voilà. Or, ce n'est pas du tout ce qui va se passer, vous le savez, au moment de Pâques, nous allons vivre ce moment extraordinaire. Cet homme divin va choisir de prendre le chemin de la croix, donc la mort en plus la plus horrible, pour pouvoir nous ouvrir l'éternité et le ciel. Et donc, pour ouvrir le chemin de la résurrection. Et donc, ils vont annoncer prophétiquement cette mort étonnante et sa résurrection à travers l'offrande de la myrrhe. Alors, on peut se demander, mais nous, qu'est-ce qu'on peut bien offrir au Seigneur ? Eh bien, il ne faut pas offrir ni de l'or, ni de l'encens, ni de la myrrhe. Et ça va être dit dans la liturgie de l'Église, je crois dans la préface, je n'ai pas vérifié, mais je pense dans la préface, il faut offrir ce que Dieu attend de nous, notre foi, notre confiance et notre vie. Il faut tout lui mettre, tout lui donner, il faut tout lui redonner. C'est aussi le sens de la procession, là, cette fois-ci, d'offertoire, c'est pour ça qu'on essaie de faire la procession dans l'allée centrale, quand il y a la procession d'offertoire avec la quête qui va suivre derrière, il y a un petit décalage chronologique, mais c'est de la même démarche, c'est symboliquement le pain, le vin offert, les quelques offrandes offertes dans la quête, c'est le symbole de notre vie qui s'offre. Cette volonté de s'offrir, nous, d'offrir tout ce que nous sommes, le meilleur de nous, mais aussi tout ce que nous sommes avec notre pauvreté aussi. Et donc, nous sommes invités ainsi à faire comme les mages, les imiter dans la procession, les imiter dans l'offrande qu'ils font, mais nous allons le faire tel que Jésus, nous le savons, tel que Jésus va nous demander de le faire, en s'offrant tout entier. Et cet acte d'offrande, de confiance et d'abandon, modifie notre vie. Il est précisé, vous le savez, que les mages ne repartent pas par le même chemin. Pourquoi ? Alors, évidemment, parce qu'il y a Hérode. Mais symboliquement, c'est très important de comprendre qu'ils ne repartent pas par le même chemin parce qu'ils sont changés. Ce ne sont plus les mêmes. Ils n'ont plus les mêmes idées. Ils n'ont plus les mêmes approches des choses. De la même manière, nous, avec eux, nous sommes invités, en offrant notre vie, à changer et à reprendre un nouveau chemin. Voilà, demandons au Seigneur de nous y aider, que le Seigneur nous donne de pouvoir, nous aussi, vivre ce chemin que les rois mages ont emprunté. Amen.